franceinter.fr. Le 7-9, Bruno Duvic sur France Inter.
Une jeune romancière, un Premier ministre et un destin sont ce matin les invités de France Inter. Bonjour Teresa Crémisi.
Bonjour.
PDG pour quelques semaines encore des éditions Flammarion, après avoir été numéro 2 de Gallimard, deux maisons désormais sous un toit commun. Le Premier ministre des lettres, c'est le surnom que vous avez donné Philippe Soler chez Gallimard, vous qui avez édité au fil des années de grands noms de la littérature française et aujourd'hui encore Houellebecq, Christine Angot ou Fred Vargas. Jeune romancière, parce qu'après toutes ces années passées à accompagner les autres, vous publiez à votre tour un roman, La Triomphante, aux éditions de l'Équateur. Roman où l'on peut déceler de nombreux parallèles avec votre propre destin, celui d'une jeune fille d'Alexandrie en Égypte, exilée en Italie, puis en France, où vous avez plus que conquis votre place. Pour la nationalité française, ce fut nettement plus difficile, on y reviendra. Pourquoi prendre la plume, Teresa Crémisi, vous qui avez longtemps dit que vous étiez là pour éditer les autres, pas pour écrire vous-même? Ce sont des proches qui vous ont convaincu?
Vous savez, les éditeurs, ça sert à quelque chose. Un éditeur m'a convaincu et m'a donné confiance. Mais je pense qu'il y a un autre déclencheur, celui peut-être de l'âge, peut-être de la raison, qui fait que l'on a envie de laisser une trace pour soi-même, pour ses parents et pour les enfants et ceux qui viendront. Une petite trace au milieu de tant d'autres.
Alors l'histoire de La Triomphante, toute la première partie du livre au moins ressemble de très près à la vôtre. Et au fond, au moment où dans un tout autre contexte, il est beaucoup question de traversée plus que douloureuse de la Méditerranée, cette histoire résonne. Quel souvenir gardez-vous du moment où vous avez quitté Alexandrie? C'était au moment de la crise de Suez.
Alors j'ai gardé un souvenir très confus parce que mes parents ne parlaient pas, le visage fermé. Plutôt effaré par ce qui allait arriver et en même temps sûr d'eux. Ils n'avaient, à mon avis, rien compris.
Et ce qui est frappant dans le livre, et j'imagine que c'est ce que vous avez vécu aussi, c'est que toute cette vie qui s'était faite à Alexandrie, tout s'effrite, tout s'effondre en quelques temps, très rapidement. Les personnes que vous connaissiez ne sont plus là.
Vous êtes obligé de tout effacer pour s'adapter à une nouvelle vie. Et j'ai eu un destin d'exilé plutôt choyé. Je m'en suis sortie. Je comprends les exilés parce que tout doit s'effacer pour laisser place au nouveau.
La narratrice a 17 ans quand elle arrive à Milan. Ses parents, par définition, ont une génération de plus. Elle refait sa vie assez vite. Sa mère, en particulier, a infiniment plus de mal. Il y a des scènes très touchantes de ses parents prostrés sur le canapé devant la télévision. La mère, qui est une forte femme en Égypte, est perdue. La plus douée, écrivez-vous, se révélait la plus fragile. Ma mère, qui aurait pu conduire une Jeep dans les montagnes d'Afghanistan, se révélait incapable de faire les courses. Il y a un âge au-delà duquel l'exil est fatal.
Et l'exil est insupportable pour les gens qui ne sont plus jeunes. Ils ne comprennent plus les codes, ils ne comprennent plus où ils sont retombés. Ils savent pas quoi dire et au fur et à mesure, ils se taisent.
C'est aussi l'impossibilité de communiquer son histoire quand on est en exil.
Et c'est toutes les histoires d'exilés se ressemblent. Ils se taisent, ils ne transmettent pas à leurs enfants et ils oublient leur passé. Et donc, ce sont comme des îles flottantes que le destin a emportées et qui attendent la fin.
Cela alors que le père a un passeport italien, la mère un passeport britannique, et qu'en Égypte, pour cette communauté bourgeoise à laquelle appartient l'héroïne et à laquelle vous apparteniez, l'Europe et singulièrement la France est un horizon rêvé. Nous appartenions à une société qui aimait la France de manière exagérée et obsessionnelle. Et à la fin du livre, cette citation encore, nous rêvions en français. Pourquoi cela?
Parce que la France au Moyen-Orient a eu une place extraordinaire pour tous les gens qui étaient cultivés. Ils parlaient français. Et un rêve faisait qu'ils pensaient qu'ils étaient français. Vous verrez ça dans presque tous les livres, il y en a beaucoup, de gens qui ont eu leur enfance en Égypte. Ils se croient français, ils se disent, on rentre en France, la France nous attend, on parle français, on connaît Jeanne d'Arc mieux qu'eux, voilà.
C'est encore le cas aujourd'hui, à votre avis?
Pas du tout. Je pense que la France a levé le pied à partir de 56. Elle est de moins en moins présente. Les milieux bourgeois sont cultivés par l'anglais et le français appartient au passé.
Alors cette France aimée de manière obsessionnelle vous a en partie rendu cette affection, en partie rejetée. C'est un passage important du livre, c'est aussi votre histoire. Vous n'avez obtenu que tout récemment, en mars dernier je crois, la nationalité française. Vous qui avez été numéro 2 de chez Gallimard, la maison de Gide, de Proust, de Modiano, de Leclésio, une institution ultra française, à plusieurs reprises, vos demandes de nationalisation ont été refusées. Comment l'avez-vous pris ?
Je vous corrige, pas à plusieurs reprises. L'ITER a été très long, oui. Mais il a été refusé et je l'ai pris très mal. C'est tout à fait déraisonnable de prendre mal une mésaventure administrative, mais je l'ai pris très mal. Les symboles sont revenus, tous cognés dans ma tête.
C'est-à-dire
J'ai eu l'impression que j'étais rejetée, oui. J'ai eu l'impression, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu l'impression que j'étais rejetée par le pays que j'aimais.
Dans le livre, il est question d'une honte sans objet.
Ah, vous avez bien lu. Oui, c'est une honte. On se dit, que il s'est passé quelque chose par lequel on n'est pas digne, on n'est pas aimé. On peut faire ce qu'on veut, faire des acrobaties pour plaire, mais que en réalité, il y a une tâche originelle et qu'on veut pas de vous.
Est-ce que ce refus était motivé?
Oui, ce refus était motivé par quelque chose qui, à mon avis, n'avait aucune importance, mais il était motivé.
Comme votre personnage, vous êtes doué pour les langues, mais la langue a forcément joué un parcours clé un rôle clé dans votre parcours. Mais le personnage, quand elle arrive en France, elle a un peu perdu la maîtrise du français, perdu de sa souplesse. Il y a des expressions qui lui échappent. Le français comme enfermé dans un réfrigérateur. C'est ce que vous avez vécu, vous aussi?
Oui, j'ai vécu ça. Et vous savez, le don des langues est quelque chose de très mouvant. Vous n'êtes jamais tout à fait bilingue, vous n'êtes jamais tout à fait trilingue. La langue prend de la place comme des nénuphars dans un étang, et puis elle se rétracte. Vous pensez d'une autre manière. C'est très intéressant et très troublant à vivre chez les personnes. Enfin, il y a un avantage. Il paraît que ceux qui parlent plusieurs langues ont rarement Alzheimer en vieillissant. Voilà, il y a un avantage.
Votre langue, je ne sais pas si on doit dire maternelle, votre langue première?
C'est le français.
C'est le français.
Oui, c'est le français.
C'est le français avec lequel vous avez grandi, que vous parliez quand vous étiez petite fille.
Et que tout le monde parlait avec respect, admiration et assurance. Tout le monde parlait français. Regardez le nombre de personnes qui n'étaient pas particulièrement françaises. Ça va de Moustaki à Claude François et de grands poètes étrangers comme Ungaret. Ils parlaient tous français.
Et du coup, ce livre, Teresa Crémisi, était forcément écrit en français, pas en italien?
Ce livre était forcément écrit en français parce que je vis en France. L'aurais-je écrit en Italie, je l'aurais écrit en italien.
Je reviens sur l'épisode de la nationalité. Pourquoi était-il si important à vos yeux d'obtenir la nationalité française ?
C'est étrange comme les symboles sont importants et pèsent dans notre vie, dans notre vision de nous-mêmes. Je suis peut-être pas la seule dans ce cas, mais il faut faire attention aux exilés, aux émigrés. Ce sont des êtres fragiles.
Le métier de l'édition, c'est un vieux métier. Nous ne sommes pas dans le milieu des start-up. Il y a des codes, des traditions. C'est la France éternelle. Est-ce que vous avez eu l'impression, justement, d'être regardée, malgré votre succès, comme une étrangère dans ce milieu de l'édition?
Non, ça non. J'ai été extrêmement bien accueillie. Je suis arrivée chez Gallimard, qui était quand même le temple de l'édition. Et j'ai cru qu'il allait y avoir des problèmes. Il n'y en a eu aucun.
Teresa Crémisi, comment ne pas vous demander une réaction après la mort d'un autre grand éditeur, Claude Durand, hier, l'homme qui a fait connaître Garcia Marquez, Solzhenitsyn, homme de coup d'édition aussi, comme le livre de Pierre Péan sur Mitterrand, homme de caractère. Que retenez-vous de son parcours ?
Il voyait l'édition comme un combat. Je pense que être éditeur est un métier très dur, où les énergies perdues sont innombrables, et Claude Durand était un combattant. Il arrivait à maîtriser. Il est très connu à l'étranger. C'est un éditeur qui a su découvrir, vous les avez cités, de grands auteurs, les accompagner, se battre pour eux. Et en même temps, il aimait faire des coups, il aimait arriver avec des surprises pour tout le monde, choquer les gens, ébranler le milieu, ne ressemblait pas à ce qu'on attendait de lui. C'était un vrai combattant et honneur à lui parce que ce métier est très dur et il envoyait le côté le plus pugnace.
Et l'édition, c'est un combat, dites-vous?
Je crois que c'est un jeu. Puisque vous jouez sur l'avenir, sur les sensations, sur la beauté des choses, c'est aussi un combat commercial, mais un combat d'idées.
Teresa Crémisi, PDG de Flammarion pour quelques semaines encore, auteur de La Triomphante qui paraît aux éditions des Équateurs. Et jusqu'à 9h05, l'invité de France Inter. Question à Teresa Crémisi autour de l'exil, autour de la place du livre en France, du métier d'éditeur. Toutes vos questions sont les bienvenues au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé interactive. Il est 8h31.